Je ne sais pas. Eh bien, il faut leur demander. Il faut leur demander.
Est-ce que ça les choquerait beaucoup?
Je ne crois pas. C'est-à-dire peut-être que ça les aiderait à comprendre quel est le comportement des sacrifices, même dans les rites non juifs.
Voilà.
En particulier dans l'anthropologie structuraliste, bien entendu. Mais ce que je veux dire, c'est ceci. Voilà, nous avons été imprégnés d'une fausse définition du sacrifice qui est la destruction de biens pour déculpabiliser. Et c'est un tout autre comportement qui ne fait pas partie du rite biblique. Sacrifice, ça veut dire se priver d'eux, ça veut dire détruire quelque chose pour exorciser un risque. C'est pas du tout cela, le korban. Okay. Ça, c'est le mot latin qui véhicule dans le mot français de sacrifice. Faire un sacrifice, ça veut dire finalement en français, c'est un comportement magique. Pour me donner le droit de posséder quelque chose, je détruis quelque chose d'autre pour exorciser le mauvais œil, pour donner sa part au diable. Mais tout cela, c'est un comportement magique qui n'a rien à voir avec le korban. Le korban, c'est le fait de réussir un repas pour lequel il n'y a pas eu de faute. C'est-à-dire, nous avons tous une idée. Je pense qu'il y a là une des causes profondes de l'anorexie, des anorexies mentales à un certain âge de l'adolescence. Lorsque, j'ouvre une toute petite parenthèse, mais je pense qu'elle est suffisamment éclairante. Lorsque subitement nous voyons un adolescent refuser de manger, il se produit là une espèce d'éveil de la conscience morale et que l'adolescent arrive difficilement à s'expliquer à lui-même. Et je pense un peu tous les adolescents sont un peu. C'est peut-être un peu avant l'adolescence d'ailleurs. Un peu après la puberté, sont passés par là. Dans le, je voudrais finir d'expliquer cela. C'est le fait d'avoir une sorte d'inhibition morale dont on ne sait pas l'origine très bien à manger. Et il y a là quelque chose de très proche, c'est-à-dire une sorte de perception plus ou moins inconsciente qu'on n'a pas le droit de se nourrir parce qu'on n'a pas mérité à cause des culpabilités qui s'attachent. Alors chacun exprime finalement cela avec son équation psychique, manger du cadavre, manger de la charogne, etc. Mais je pense que très profondément, l'inhibition commence de manger la nourriture de ses propres parents. Vous avez la réponse à votre question. Et que ça touche beaucoup plus la fille que le garçon. Mais enfin, ça les touche les deux. Et dans la mesure où cette crise est résorbée, alors tout va très bien, sinon ça mène à des désordres qui sont très difficiles à guérir dans la suite de la vie. Parce que... Les psychanalystes coûtent cher, finalement. Bien, oui.
Manu Pascal, il fallait manger.
Oui, et c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est un rite de constitution de l'identité nationale. On participe à un repas.
Oui. C'est comme si, dans l'esclavage, la valeur, quand on n'a plus rien, la valeur suprême à conserver, c'est l'appétit.
Oui. Mais il y a un détail d'ailleurs du rite de l'agneau pascal qui le montre bien. C'est-à-dire qu'on devait constituer une havura, une chèvra, pour recouvrir la capacité, comment dire ça en français, ish le fiochlo tachosu alase. Ça veut dire chacun est défini comme une capacité d'appétit. Velototti ou mimeno ad boker. Bien.
Dans le même sens, korban. Je veux dire, mes carrefs,
se rapprocher, ce qui peut aussi être compris, rapprochement avec, pas seulement avec Dieu, mais rapprochement avec les autres, qui participent. Écoutez, ce terme, le verbe signifie rapprocher, ça veut dire que l'action du korban me permet d'être plus proche de la sainteté. Alors, ceci dit, dans les dimensions proprement sociales, vous pourriez voir, c'est un terme que je voulais éviter d'employer, un rite de communion au niveau social, enfin de constitution de l'entité sociale, par exemple au temps de la sortie d'Égypte. Enfin, ce sont autant d'échappées que les analyses nous ont introduites. Je voulais simplement mettre en évidence cette deuxième notion, qu'il y a, après la destruction du temple, une obligation de la tefila. Maintenant, rejoignons les deux notions. Et d'abord, le droit à la tefila. La tefila tefila, deuxièmement la tefila mitzvah, qui vient non pas remplacer le sacrifice, mais occuper sa fonction. Notre sidour est une sorte d'ersatz, du korban, l'ersatz du sacrifice, parce que le temple n'est pas là. Eh bien, apparaît là une troisième notion qui synthétise les deux premières et qui me semble importante, c'est que nous découvrons là que le fait d'avoir à demander cette bracha qui authentifie l'homme, et là vous retrouvez l'énuméré des différentes brachot qui sont demandées dans le Shmoné Esré, n'est pas seulement un droit, mais un devoir. En quelque sorte, nous nous mettons au service de la volonté du Créateur et que c'est un devoir de demander ce qu'il voudrait nous donner en tant que Créateur, dans son projet de Créateur. Donc nous avons, si vous voulez, une dialectique de trois notions. Premièrement, il y a un droit à la demande. Deuxièmement, il y a un devoir de la demande. Il y a une vertu qui consiste à se soumettre à l'obligation d'utiliser ce droit que nous avons de demander.
La valeur sacrificielle de la prière doit jouer heureusement comme à la chatsuka.
J'ai pas compris.
C'est-à-dire qu'il y a deux notions de la prière. Il y a une notion historique qui intervient quand on parle de valeur sacrificielle de la prière.
Qu'est-ce que ça veut dire valeur sacrificielle? Ah oui, oui.
Il dit en somme en tenant lieu des sacrifices qui n'ont plus lieu. Puisque
tant oui.
Donc, c'est
l'exercice. Tu prends donc à Marc Loquet. Mais c'est relié à ce que nous avons vu immédiatement. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait constitution d'une collectivité en paix pour que la prière soit possible. C'est-à-dire, effectivement, il y a là, dans le sens de cette expression, une valeur sacrificielle de constituer une communauté de prière. C'est-à-dire de mettre fin à une Marc Loquet. De mettre fin à la marque. Voilà, je voudrais compléter cela par l'étude du verset qui introduit le Shmoné Esré, mais auparavant, je vous donne tout de suite la référence que nous cherchions tout à l'heure. C'est la page 32b. C'est cela. Amar Rabbi Elazar, page 32b dans Brachot. Amar Rabbi Elazar. Gedol atfila yoter mina korbanot. La tfila est plus grande que les sacrifices. Je n'ai marre, la mali rov ziprechem, c'est dans le premier chapitre d'Isaïe. Urtib farsechem kapechem alaim enaim mikem. Voilà, c'est l'essentiel de cette référence. La prière est plus grande que les sacrifices parce que les sacrifices se bornent à réintégrer un état d'intégrité, mais que la prière me fait obtenir plus. Et les sacrifices sans prière, sont inférieurs. Mais la prière sans sacrifice est impossible. Voilà, grosso modo, si vous voulez, le thème que nous avons à voir. Alors, je me bornerai aujourd'hui, donc, pour terminer, à l'analyse de ce verset, qui est introduit par Rabbi Yochanan comme celui-là. Arichta. Tfila Arichta, ça veut dire allongement de la prière. Nous en avons deux. Une au début, deux versets. Un au début, un à la fin. Voilà de quoi il s'agit. Le verset dit ceci. Adonai, écrit comme ça. Sefatai tiftach. Ufi yagid teilatecha. Littéralement, ça veut dire Adonai, mon Seigneur, Sefatai Tiftach, tu ouvriras mes lèvres, Ufi et ma bouche, Yagib dira Tehilatecha, ta louange. C'est-à-dire, je vais dire d'abord à qui je m'adresse, ce qui est l'objet des trois premières brachot, devant qui je suis et devant qui je suis. Il y a donc un énoncé de la Tehila, le projet étant la définition de qui je suis, devant qui je suis. Je ne peux entreprendre cette demande que si je suis dans l'état du tzaddik. C'est-à-dire, vous vous rappelez de cela, la faute m'avait fait tomber, mais il faut que je me réintègre dans l'état du tzaddik pour pouvoir demander plus. Nous allons voir comment cette institution de Rabbi Yochanan permet à l'individu d'entrer dans la collectivité. La collectivité est tzaddik, mais à l'échelle individuelle, je suis toujours en inadéquation avec cette intégrité de l'être collectif. Je vais participer personnellement et introduire mes intentions de prière dans la prière collective. Il faut que je rentre dans la Keïla des Tzadikim, que je forme ce minyan où il n'y a pas de marloquette en particulier. Nous allons voir comment ce verset est un rite d'expiation individuelle qui me régénère comme membre du Ve'amer Kulam Tzadikim. Par le commentaire que Rashi en donne. Vous verrez donc, c'est le chapitre 51 de Tehillim. Vous verrez que ce psaume a été dit par David dans le cas d'une situation de faute où aucun sacrifice ne pouvait expier parce que c'était une situation de faute volontaire. Or, depuis la destruction du temple, nous sommes dans le même cas pour d'autres raisons. Le sacrifice ne peut pas expier les fautes parce que le temple est détruit, parce qu'il n'y a pas de sacrifice. Nous sommes donc renvoyés dans une situation très analogue à celle dans laquelle était David, qui ne pouvait pas obtenir de pardon par le sacrifice parce que sa faute était volontaire. Vous verrez le contenu de tout ce psaume 51. Alors il dit ceci, Adonai, Sefatai Tiftar, Ufi Yagid Teilatecha. Tant que je suis en situation de faute, je n'ai pas le droit de dire qui tu es, qui je suis devant toi. Racha, Ken, Hote. Alors, ouvre mes lèvres, ça veut dire pardonne-moi, que j'ai le droit de dire ta louange et de prier. Bien. Rashi dit ceci. Voilà ce que signifie le verset. Macholi Vetemi Pitronpe Lehagid Teilatecha. Nous allons voir le décalque entre la lecture de Rashi et le verset. En laissant ceci pour tout à l'heure. Sefata et Tiftar, tu ouvriras mes lèvres. Le pshat du verset nous donne un langage concret. Tu ouvriras mes lèvres, que je puisse ouvrir la bouche pour parler. Rashi déjà va un peu rendre un peu plus abstrait la lecture. Mais tenni pitronpe, donne-moi ouverture de bouche. Pitronpe en hébreu, ça veut dire le droit moral de parler. Vous voyez, le verset a dit ouvre mes lèvres. Et Rashi nous dit ça veut dire donne-moi le droit d'ouvrir mes lèvres. Léagit et Atecha, pour dire ta louange, ça se correspond avec le verset. Et ma bouche dira ta louange. Mais ici, dans ce décalque, Rashi explique le mot Adonai par Marcholi, pardonne-moi. Et voyez de quel rite il s'agit. Un rite de rédemption personnelle, si j'ose dire, de tikkun personnel, qui me permet d'entrer dans la liturgie collective. Alors, je vais simplement analyser cette traduction de Rashi. Comment Adonai signifie « Macholli ». Comment « Seigneur » signifie « Pardonne-moi ». En français, c'est difficile à entendre. Donc nous allons un peu passer par l'analyse de l'étymologie hébraïque. Eh bien, je ferai tout simplement l'analyse de la situation de faute. Qu'est-ce que c'est qu'une situation de faute ? Je ne reconnais pas la souveraineté du Créateur. Or, c'est cette souveraineté qui est indiquée par le mot « Adonai ». Adonai, mon Adon, mon souverain. Au moment de la faute, ce mot de Adon a disparu, puisque Dieu n'est Adon que si je le reconnais comme tel. Donc, le comportement de faute consiste à ne pas reconnaître Dieu comme Adon. Est-ce que c'est clair ? Par conséquent, si de nouveau je l'invoque comme Adon, ça veut dire Macholi. C'est clair ? C'est-à-dire, au moment de la faute, le mot Adon a disparu, à la place il y a le mot Elokai, mon Dieu. Et vous savez qu'en hébreu, le mot de Elokai signifie mon juge. Hein ? C'est-à-dire, de cela, je ne peux rien. Le fait que Dieu soit mon Dieu, en tant que juge, ça ne dépend pas de moi. Mais le fait qu'il soit mon souverain, ça dépend de moi. Par conséquent, la faute évacue le mot de Adonai et met à la place le mot de Elokai. Okay? Si de nouveau je dis Adonai, ça veut dire, comme dit Rashi, pardonne-moi. Donc, déjà dans ce mot Adonai, il y a un comportement liturgique d'introduction individuelle dans la communauté de la prière collective. Vous voyez, nous avons donc atteint trois notions, comme je disais tout à l'heure. Il y avait d'abord le droit à la demande. Et puis, mais ce droit à la demande dépend des korbanot. Maintenant que les korbanot ne sont pas là, il y a devoir de la demande à travers un rite qui va remplacer la fonction des korbanot. Cette troisième notion-là m'apparaît extrêmement importante. C'est que ce qui était un droit va devenir une obligation. Je me mets au service de la volonté du Créateur en utilisant le droit que j'ai à la demande. Est-ce que c'est suffisamment clair? C'est une notion que je voulais assez éclaircie.
Je ne comprends pas la troisième notion. Je ne vois encore jusqu'à présent que deux notions. La notion de prière droit et prière devoir. Mais la troisième notion que nous considérons, je n'arrive pas à voir ce troisième.
C'est la, le devoir d'utiliser le droit à la demande. Et dans la deuxième notion de la prière devoir, c'était la prière, le devoir de faire servir à la prière à l'expiation. La avoda du Beit HaKnesset. Okay. Mais à part une troisième notion qui synthétise les deux, beaucoup plus importante. Ça veut dire, j'ai le devoir d'utiliser ce droit afin que la volonté de Dieu se réalise.
C'est la possibilité de se connaître. Il n'y a pas d'autre possibilité pour reconnaître. C'est demander, c'est une nécessité de
reconnaître. Comment ?
C'est
non, voilà, je vais essayer d'écrire cela en termes élémentaires. Et le Créateur a un projet. Et c'est ce que nous appelons sa volonté. Or, à chaque stade de notre histoire, sa volonté n'est pas accomplie, parce qu'on ne mérite pas assez. Alors nous sommes toujours à un stade de point de départ, plus dirigé vers l'être de nature que vers l'être, pour parler français, vers l'être de culture, disons. Mais sa volonté, ce n'est pas que nous restions au stade du point de départ. Sa volonté, que nous arrivions à être comblés de ce qui nous manque. Ce n'est pas ma volonté, ce bien que j'exige, c'est la sienne comme créateur. Alors je demande que sa volonté se fasse, c'est-à-dire le bien pour moi. Mais pour cela, il faut que je le demande. Par conséquent, c'est un devoir, un service, dans le sens de service sacré, si vous voulez, de me mettre comme serviteur de sa volonté. Comment ? En utilisant ce droit à demander. Et donc la tradition en fait une obligation, un devoir. Ce qui était un droit m'est imposé comme devoir. Et voilà l'expression talmudique qui en parle. Hakadosh Baruch Hu mitave litfilatan shel tzadikim. Dieu désire la prière des justes. Et pour les obliger à prier, il les prive de tout. Parce que le juste n'ose pas prier. C'est ça qu'il faut découvrir. Le juste a tendance à être de la piété de la religion naturelle. Ce que Dieu fait est bien. Vous voyez ? Et alors, ça va plus loin dans cet enseignement. Là, on rentre un peu dans la chassidoute. Le juste est persécuté. Dieu lui envoie des issourim pour l'obliger à prier. C'est-à-dire cette expérience du manque absolu, acculé à cela, prie comme ça je donne aux autres. Alors il faut comprendre ces deux choses à la fois. D'abord cette finesse de la qualité de la piété du juste qui n'ose pas prier. Le juste a peur de prier. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais demander, ça va peut-être déranger les plans du Créateur. Et moi, je demande, moi, mais il y a l'univers entier qui marche. Et ce que je vais demander, ça va tout déranger. Vous voyez, ce type de piété, le juste, a peur de demander. Alors voilà, il va être acculé à demander. C'est ça, c'est ce que dit cette phrase du Talmud que je viens de citer. Akadosh Baruch Hu mitave litfilatam shel tzadikim. Et c'est pourquoi il les prive de tout. Et vous voyez, est-ce que c'est un peu plus clair? C'est-à-dire, là, nous arrivons à une piété supérieure. Enfin, l'obligation d'utiliser ce droit à la demande. J'ai entendu une fois d'un rabbin chassid qui a donné cet exemple. La prière du juste, c'est un parapluie. Hein? Il demande la pluie, mais il se protège du parapluie pour que la pluie aille aux autres. Lui, il ne veut pas. Hein? Mais, alors, voilà. Il demande la pluie, mais elle va chez les autres. La pluie, c'est la bénédiction. Là, s'il n'y a pas la pluie, il n'y a pas de nourriture. Et vous pensez à l'orage, vous pensez à la tornade, vous pensez à ça, c'est autre chose. Mais la pluie.
La pluie en ville.
La pluie en ville. Bien. Et je pense que maintenant, c'est plus clair. Alors, je crois que. Demain, nous allons aborder la première sugya que vous avez dans les textes. Précisément, ce que la Mishnah appelle le Kovod Rosh, c'est l'expérience de piété concernant la prière devoir. Et c'est ce que nous allons étudier demain, plus en détail.
Vous avez dit que
maintenant, vous avez quand même 10 minutes et vous avez des questions.
Vous avez dit que deux versets pour Adonai Sefer Tiftach, Ofer Gid Yadecha, puis un autre que vous n'avez pas monté.
Oui, c'est Iyo le ratzon imrefi, veyo le bide fanecha, Hachem soulevoavi.
Vous le commenterez ou...
Non, on n'en parlera pas, mais c'est aussi Tfila Arichta, la sortie de la prière. Okay.
En dehors du sujet, je voudrais poser une question. C'est à propos, puisque vous parliez de la pluie, c'est à propos de l'eau. Je crois qu'il y a une tradition que Maïm, en hébreu, soit considéré comme le pluriel de Mar.
Oui.
Et est-ce que vous pouvez m'expliquer cette tradition? Parce que, comme vous le savez, ça me laisse un peu au fond.
Bon, il y a d'abord une notion de linguistique élémentaire. Vous savez que le mot de « o » n'est pas utilisé au singulier en hébreu. Mais, par exemple, vous avez le même mot en arabe qui était utilisé au singulier, « le ma ».« Ma ». Or, en hébreu, le mot « ma », c'est quoi ?
C'est la question.
Et donc, « maïn » serait d'une certaine manière le pluriel de l'ensemble des « ma ».
Ma, c'est mémé, c'est ça ?
Mémé, quel ? Le mot ma, c'est le latin cuir. C'est-à-dire les choses. Hein? Chaque ma est un élément de l'être. Hein? Les ma. Et au pluriel, les maïs. Le roi Elohim, rachefet alpene hamaï. C'est-à-dire, l'état premier du monde, c'est un ensemble de ma au pluriel. De ma avec S, maïs. Mais comme par exemple pour Shamaïm, qui est aussi un duel, mais enfin, disons une forme du pluriel, et que vous avez en arabe, Sama, c'est il y a le singulier en arabe, mais il n'y a pas en hébreu. Et donc, tout se passe comme si la langue hébraïque nous invite à comprendre que l'élément le plus élémentaire de la matière sont les composants de l'eau, et en particulier plus l'hydrogène que l'oxygène d'ailleurs. Enfin, là, c'est un peu sous forme de blague, comme d'habitude, bien sûr, c'est le fait que H2O, alors vous avez deux fois même et une fois I.
Deux fois même, une fois.
Mais ça, c'est une blague. Maïm, H2O. Mais, vous voyez, la lettre même, en hébreu, d'expression, cela implique. L'origine de toute chose, même ce mais, venir de, okay? Même. Alors, même renverrait à l'atome d'hydrogène, pourquoi pas hein?
Okay.
Alors, vous savez comment on dit en hébreu l'hydrogène d'ailleurs? Tout simplement, meman.
Okay.
Vous voyez les coïncidences hein?
Vous avez dit que c'était un repas dans lequel il n'y avait pas de faux, parce que c'était un repas qui était dans un circuit économique. Débaucher l'explication en disant que c'était parce qu'il n'y avait pas de plus-value, etc. Alors je voudrais savoir si on pense à un système économique où il n'y a pas de plus-value,
il n'y aurait pas de faute.
Pardon ?
Il n'y aurait pas de faute.
C'est péché la plus-value.
Non, c'est pas un béton, le problème n'est pas là. C'est-à-dire que...
Ah non, écoutez.
Est-ce qu'il n'y aura pas de faute économique ? C'est-à-dire, est-ce que le sacrifice, il y aurait une dimension du produit
Écoutez, nous parlons d'un monde utopique. Oui. Alors, non, à l'intérieur d'un monde utopique. Tant que. Écoutez, imaginons une situation idéale, hein, où nous ayons vraiment un système économique des échanges sociaux. Où il n'y aurait strictement aucune faute de ce point de vue. L'instant d'après, vous aurez tout de suite un homme qui va s'installer dans un comptoir et inventer un système pour recommencer ce circuit. Tant qu'il y a le Yetzer Hara, vous comprenez ? Alors inévitablement, ça recommence. Mais prenons, si vous voulez, le stade utopique. Je pense qu'un monde où il n'est pas nécessaire d'exploiter quelqu'un pour gagner sa vie, c'est un monde où il n'y aurait pas de faute. Parce que Si nous faisons l'analyse de toute faute possible, quelle qu'elle soit, dans tous les domaines de la moralité, en fin de compte, la raison profonde, c'est la recherche de l'obtention d'une jouissance. Et c'est parce que nous sommes constitués comme ça, de ne pouvoir exister que dans la mesure où nous nourrissons de jouissance, qu'en fin de compte, les fautes sont entraînées. Alors, ce rite du korban, du sacrifice biblique de la loi mosaïque, a un objet extrêmement important. C'est un rite de déculpabilisation des fautes innocentes. Il y a des culpabilités innocentes, si j'ose dire. J'ai pas voulu faire cette faute. Mais voilà, et je cherche pas à comprendre, mais si je cherchais à comprendre le pain que j'achète, à cause du pain que j'achète que je vais manger, il y a des hommes qui se sont suicidés. Et donc ce pain est plein de fautes. Voilà donc quelle est la valeur du courban dans le Beth Amikdash. Comme vous avez dit, le produit de la nourriture est venu des prélèvements de la dîme, de la trouma, du maaser, des prélèvements qui ont été faits avant la commercialisation. J'ai pris l'exemple de agricole. Si vous voulez, parce que la société hébraïque de ce temps était agricole, mais tout ce qui est produit de consommation, en fin de compte, entre dans le même cas. Tout produit de consommation est grévé de mensonges, de vols, de viols, c'était tellement évident. On ne cherche pas à comprendre. Simplement, c'est ce drame de l'anorexie mentale dont j'ai parlé tout à l'heure, où ça se passe dans l'inconscient, on a un rejet de la nourriture, jusqu'à ce qu'on arrive à comprendre qu'il faut bien manger pour vivre. Vous comprenez à peu près le rôle. Alors, il faut une déculpabilisation de cela. Je vais vous dire pourquoi. Remarquez, dans n'importe quel système économique. Comprenez, je vais vous dire pourquoi. Vous voyez comment le Rambam, si c'est le Gemara qui est très fort. Le monde à venir, il n'y a pas à manger et boire. Alors on est tranquille. Il n'y a pas à manger et boire, il n'y aura pas de faute. C'est tout. C'est ça ?
La conscience.
Justement. Tzadikim yoshvim ve'atarotehem al rocheem ve'nehenim miziv ashrina. On se nourrira de la splendeur de la shrina comme les fleurs se nourrissent du soleil. Fonction chlorophyllienne, je vous en prie. Et on verra bien à ce moment-là. Parce que finalement, effectivement, c'est ce qu'il faut comprendre. Et vous voyez d'ailleurs, ça je relis moi-même maintenant ces deux notions, cette espèce de pente catastrophique de la société où le système économique s'est affolé et elle devient société de consommation et où la conscience sent très bien qu'elle se dirige vers un enfer pur et simple. Il n'y a pas de doute. Je voulais simplement ajouter une notion qui me paraît importante, mais elle va me revenir. C'est le fait que... je pense que c'est ce fait est élémentaire. Que fondamental, que j'ai cité tout à l'heure. J'analyse un peu cela, un peu en termes philosophiques, si vous voulez. Le fait que l'homme doive manger pour vivre, c'est-à-dire que la présence de la conscience à elle-même, et non pas qu'elle tombe en syncope, dépend de glucides, de protéides, il y a un scandale philosophique. C'est-à-dire, toute la valeur de la présence humaine dépend de quoi ? De l'aliment. Et aucun philosophe n'a osé poser le problème. C'est-à-dire, il y a une espèce de scandale inouï. Nous dépendons de quoi, en fin de compte ? De l'élémentaire. Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est ceci. C'est intentionnel. Nous sommes donnés à cette identité économique parce que nous sommes donnés au problème moral. Le problème moral n'est posé que toujours en relation à une situation économique. Et lorsque le problème moral aura été résolu, lorsque l'épreuve morale aura été résolue, lorsque ce test sera achevé, la fin de Olam Hazeh, eh bien nous n'aurons plus à être cette entité économique parce que nous n'aurons plus à nous justifier au niveau du vrai. Mais tant que ce qu'il faut comprendre, c'est je donnerai par exemple le seul calendrier religieux où il y a le jour de Kippour, c'est le calendrier hébraïque. Pourquoi ? Parce que c'est la seule religion de la loi morale. Alors donc il faut la soupape de déculpabilisation pour être chaque fois revirginisé et prêt à accepter chaque jour, chaque année, mais chaque jour, le problème moral. Toutes les autres religions ont dissocié l'exigence du salut du problème moral. Alors ils n'ont pas de jour de Kippour. C'est que vous comprenez. C'est que la kapara est le rite par excellence de la religion de la loi. Ça nous rend disponible à accepter la loi morale, sinon nous serions intoxiqués par les culpabilités non responsables que nous avons dans chaque geste de vie. Voilà ce qu'il faut comprendre. Alors, une minute, mais l'essentiel du test là, de ne pas confondre le rite de sacrifice et le rite de prière. Ils n'ont rien à voir. Et cette légende des historiens des religions de dire que l'un a remplacé l'autre, c'est une incompréhension du problème. L'un a pris la fonction de l'autre, mais ce sont deux fonctions complètement différentes. Oui ?
Comment expliquer l'exigence de la Kavana avec l'exigence de faire obligatoirement deux jours avec la prière. Comment est-ce que, des fois, des gens disent, mais il arrive très souvent, comment on va dire, presque chaque fois, de ne pas avoir une cabana parfaite, même réduite, surtout pour mes femmes, où je peux occuper par mon travail, la prière vient presque mécaniquement.
Oui. Écoutez, ça fait partie, si vous voulez, de la dilution de l'envergure psychique de notre personnalité. Dans les moments de civilisation où nous vivons, nous avons des entités psychiques, chaque personne très diluée, très microscopique. Et alors, on n'exige qu'une cavana à la hauteur de là où nous sommes. Il est bien évident que l'idéal, c'est la cavana dans le sens ultime du terme, la présence d'esprit totale. Mais finalement, ce que le rite, le shranarur, le din, nous réclame, c'est au moins de ne pas faire de faute dans ce qu'on prononce. Je veux dire pourquoi. En fait, nous vivons de façon quasi libre, quasi consciente. Le plus important de notre présence psychique est dans notre inconscient. Alors si moi je ne comprends pas ce que je dis, mon inconscient comprend.
Vous voulez dire qu'il y aurait une inconscience spirituelle?
Dans les temps modernes, oui. Vous savez, une des grandes questions qui m'a préoccupé, c'est cela. Pourquoi la découverte de l'inconscient vient si tardivement dans l'histoire de la civilisation? Et avant, vous savez pas que c'est... Et c'est un chapitre pour lui-même. Il me semble qu'on peut répondre de la manière suivante. Moins on est capable de mémoire, plus l'inconscient grandit. Et la lucidité du Talmid Chacham, c'est que tout est présent dans sa mémoire. Alors il n'y a pas d'inconscient. Et que l'inconscient envahit... Enfin, l'importance de l'inconscient envahit notre identité psychique dans les temps récents de l'infantilisme par rapport à la mémoire. D'autant plus que la praxis essentielle des thérapeutiques de l'inconscient, c'est de faire passer à la mémoire. Et alors, dès que c'est passé à la mémoire, il y a lucidité.
Il s'agit ici d'un travail permanent, de
réinterprétation. Bravo, bien entendu. Voilà, je crois que la phrase que j'ai dit tout à l'heure est, je pense, assez importante. Nous avons une envergure psychique microscopique, diluée. Enfin, l'image qui m'est venue, c'est l'image du iceberg. Okay. Et nous ne voyons plus que l'extrême pointe de ce qui émerge. Alors que les hommes de notre antiquité, eh bien, leur iceberg était tout en surface. Mais, et alors, on ne nous réclame plus qu'à la hauteur de là où nous sommes. Au fond, très peu de choses, mais qui devient déjà terriblement difficile. Ne pas faire de faute dans la prononciation.
Est-ce que vous voulez dire qu'il y a une régression de la conscience?
Une régression de l'envergure. Et vous, sans problème, mais vous savez, déjà Platon l'a dit. Platon disait que le premier signe de l'infantilisme, c'était qu'on est obligé d'écrire pour ne pas oublier. Oui. Et c'est Platon qui a dit, déjà en son temps. Oui.
Est-ce en ce sens que vous avez dit un jour que la mesure de nos limites est l'envergure de Moshe?
Oui. Oui, il y a eu un homme qui a lui tout seul récapitulé toute l'envergure psychique de tout le peuple d'Israël, c'était Moïse. C'est pourquoi c'est lui qui a reçu la Torah pour Israël. Chaque petite chose qu'on peut comprendre, c'est un petit peu de Torah de Moshe. Et Torah de Moshe, c'est l'ensemble. Je crois que c'est... Vous voyez, tous ces versets où il y a l'importance du zecher, ne pas perdre la mémoire. Et surtout le verset dans Malachi, Zichru Torah Moshe Avdi. Mémorisez la Torah de Moïse, mon serviteur. Parce que si vous ne vous rappelez pas, vous allez oublier. Et rien de plus terrible. Et il n'y a rien de plus terrible que lorsque l'essentiel est passé dans l'inconscient. Vous voyez, cette...
On peut oublier, mais il faut avoir des traces pour oublier.
Oui, mais vous savez, les traces, il faut les déchiffrer. Et si on ne dispose pas de déchiffreur, c'est-à-dire il faut un guide. Et si on n'a pas de déchiffreur, c'est très important cela.
Mais le psychanalyste prétend décoder.
Oui. Prétend. Oui. C'est-à-dire, ils sont le déchiffreur pour la trace des autres. Oui, mais, vous savez, on dit souvent, mais c'est peut-être pas une blague, le monde se divise en deux parties, les médecins et les malades. Mais il n'y a pas forcément un médecin pour un malade. Par exemple. Par exemple, bien sûr. Oui, oui. Et malheureusement. Et c'est exact. Je crois que cette importance de la mémoire, dans le sens de mémoriser, pas se rappeler quelque chose qu'on a oublié, mais ne pas oublier. Et plus un homme a son passé dans sa mémoire lucide, moins il risque d'être névrosé, tout simplement. Alors donc, une minute, on pourrait dire cela, que c'est tardivement qu'on a eu besoin de la découverte de Freud.
C'est Le passé est un capital.
Et qui d'ailleurs commente très exactement l'ouverture du futur. Mmh. Je vous rappelle cette image des élémentaires, hein, c'est les deux angles opposés par le sommet. Si un est le passé et l'autre le futur, plus mon passé est grand, plus mon futur est grand.
Contrairement aux musulmans, avec leur dit fatma, ce qui est passé est mort.
Oui, là, il y a peut-être un sens de...
L'a utilisé pour
vivre. Oui. Là, il y a peut-être un sens de...
Avec un prétexte de rapprochement.
Oui, mais là, il y a peut-être un sens moral. Oui. Un sens moral. Oui. De générosité, de ne pas tenir compte d'un passé qui grèverait l'avenir. Non, mais je crois que là, il y a quelque chose d'important dans ce verset de Malachi. Zichru, Torah Moshe Abdi. La Torah ne peut pas se réinventer. Si on l'a oublié, on l'a oublié. Et d'ailleurs, vous avez une gemara importante, qui est que la cause de la machloket, c'est l'oubli. Shikha. C'est le fait qu'on a oublié qui fait qu'il y a machloket. Et si on n'oublie pas, il n'y a pas de machloket.
C'est comme l'écrire
une minute. D'ailleurs, la règle est que halakha le Moshe Misinaï, il n'y a pas de machloket. Parce qu'on se rappelle depuis Moïse au Sinaï, c'est comme ça. Halakha le Moshe Misinaï, il n'y a pas de machloket. Mais c'est très important.
Ce que vous dites au sujet des deux angles qui s'opposent. Pour avoir un grand futur, il faut avoir un grand passé.
C'est ça. C'est-à-dire, nous commandons l'ouverture de notre futur parce que nous commandons l'ouverture de notre passé. Et plus je fais mon passé grand, plus mon futur s'ouvre. C'est évident. Et vous savez ce que disait le verset de la Sidra de Vaïgash lorsque Joseph interpelle Yehuda en lui disant « Finalement, qui vous êtes, vous les Hébreux ?» Alors Yehuda répond un verset extraordinaire. « Yeshlanu avzaken veyeled zekunim katam » Vous avez compris, nous avons le plus grand passé et le plus grand futur. Le plus grand passé, c'est la galoute, et le plus grand futur, c'est Eretz Israël. C'est la raison pour laquelle Binyamin, il ne voulait pas qu'il descende d'Eretz Israël. Vous voyez que c'est effectivement, je crois que là, il y a une dimension d'une envergure extraordinaire. C'est dans cette parole de Yehuda. Yeshlanu Abzaken, nous avons le passé le plus ancien, de la plus grande sagesse du passé. Et le germe du plus grand avenir. C'est dans en termes de Kabbalah, c'est le Ari Hanpin et le Zeir Hanpin.
C'est quand même un problème de Jacher et Tchad Mitzrayim, non?
C'est-à-dire?
Qu'on a ce souvenir de notre Égypte.
Enfin. Bien sûr, bien sûr. C'est l'importance du Zecher, qui est un des premiers enseignements que j'ai reçus de mon maître. L'importance du Zecher. C'est pas simplement, si vous voulez, se commémorer. Hein? 14 juillet, on commémore, quoi. Mais le Zecher, c'est remémorer. C'est-à-dire rendre actuel, donc futur, ce qui a été. C'est la force du Zahar. Zechulcha. Bien. Alors écoutez, demain, nous allons prendre donc la première souvia, si vous voulez la préparer, c'est-à-dire l'étude du Kohelet. Je pense qu'on a répondu à toutes les...